France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, pour l'apéro, on a un rendez-vous avec Christine Ockrent, qui a été la deuxième femme à présenter le 20h, qui a été patronne de médias et qui lit avec beaucoup de précision le Donald Trump. C'est une langue, il paraît. On va apprendre à parler le Trump avec Christine Ockrent. Attention, la voilà!
Oh là là!
Et qui vois-je? Qui vois-je?
Qui? Alors qui?
Alors qui? Bonne année, bonne année! Meilleurs vœux! Bonjour! Voilà. Bonjour Christine Ockrent!
Bonjour à tous! Bonjour à tous!
Je vous présente mon équipe. Il y a François à la réalisation, François Audouin, et Mickaël Simon à la technique.
Et ils tiennent le coup?
Écoutez, c'est que le début, on a intérêt. Encore 3 ans de Trump, nous aussi on doit tenir le coup, non?
Oh là là! Ça devient difficile.
Non, dites pas ça. On compte sur vous, on a besoin de vous.
Mais j'espère bien. Je suis là pour ça, pour défendre nos valeurs, l'Europe, la République.
Vive la France.
Et la Belgique.
Et la Belgique, bien sûr. On n'est pas à l'abri de se marrer avec la reine Christine. Venez.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Christine Ockrent, je vous ai fait tout simplement traverser la rue parce que vous êtes productrice de l'émission Affaires étrangères sur France Culture le samedi.
Absolument.
En direct.
De 11h à midi.
Exactement. Et dites, en plus, vous êtes aux grosses têtes de RTL. C'est génial. Comment est-ce qu'on fait pour être à France Culture et aux grosses têtes en même temps? Moi, ça m'intéresse, moi.
Mais c'est ce qu'il faut faire pour garder sa santé mentale. Il faut rire de temps en temps.
Oui. Mais on peut faire ça, vous pensez? Moi, je ne pense pas que je puisse faire ça.
Quoi,
j'ai demandé. Non, d'aller à RTL
c'est
en même temps.
C'est votre métier. Non, mais j'ai demandé la permission. Hein.
Ah, ça, je n'ai pas fait ça. Vous voyez? Je vais tenter. Je vous donnerai des nouvelles. vous aimez vous marrer. Ça, c'est certain. Vous avez aussi un humour un peu cinglant qui vous vient d'où?
Qui me vient de mon tempérament.
Ouais.
Non, et puis j'aime bien l'humour british. Les Anglais ont cette façon un peu pincée et souvent assez drôle de dire des choses justes, pas cruelles, mais juste un peu, voilà, un tout petit peu mordante quand l'occasion s'y prête.
Tout en restant poker face.
Ah, il faut.
Il faut.
Mais à la radio, ça ne compte pas.
Ça ne sert à rien, oui. Je suis d'accord. Vous avez dit un jour que dans la presse que votre mère avait un humour à la flamande. Parce que je rappelle que vous êtes belge. C'est quoi un humour à la flamande? Moi, je suis à moitié flamande. Justement,
vous devriez le savoir.
Non, je ne sais pas.
C'est quand même un tempérament qui, à quelques exceptions près, dont manifestement vous faites partie, n'est pas vraiment extrêmement explosif. Non, ce sont plutôt des gens relativement, comment dire, sobres jusqu'au moment où ça explose.
Comparativement au tempérament latin,
voilà.
C'est plus réservé. Alors, vous publiez, Christine Ockrent, un dictionnaire du Trump qui s'intitule « Le Trump de A à Z », un premier dictionnaire paru chez De Noël, A comme America, B comme bureau ovale, C comme censure. Le Trump, c'est une langue, dites-vous, et il faut parler le Trump pour pouvoir comprendre son message?
Il faut en tout cas comprendre comment cet homme qui n'a pas de doctrine, mais qui est un homme de spectacle, et qui veut assurer le spectacle à condition d'en être le centre, évidemment, et le seul héros, c'est aussi un homme qui ne cesse de commenter sa propre action, si vous voulez, et singulièrement, plus encore, pendant ce second mandat, où il n'arrête pas de donner des interviews, il n'arrête pas de publier sur son... Il a son propre réseau, qui s'appelle Truth Social. À 2h du mat, il est encore là, en train de gribouiller, avec une langue anglaise extrêmement simplifiée, 5 mots de vocabulaire, beaucoup de majuscules, beaucoup de points d'exclamation, mais je suis convaincue que pour essayer de comprendre ce qui se passe... Et il est l'homme le plus puissant du monde. Et il n'arrête pas de le répéter, et d'ailleurs de s'en réjouir. Il faut effectivement comprendre son mode d'expression. Parce que ce mode d'expression est contagieux. Il est contagieux à cause des réseaux, à cause de la simplification extrême, de la rapidité aussi.
Ouais. Et contagieux fou. Auprès de qui? Il y a déjà des dirigeants qui parlent comme lui?
Mais bien sûr.
Des gens dans la rue qui parlent comme lui?
Aux États-Unis, sûrement. D'ailleurs, le seul opposant à Trump aux États-Unis, qui est le gouverneur de Californie, Newsom, qui a des prétentions pour être le candidat démocrate en 2000. Quand ça d'ailleurs ?
Dans 3 ans.
Oui, c'est, ouais. Ça va être long.
Encore 3 ans.
Voilà.
Putain, 3 ans, comme
bon,
vous avez dit.
Bon, eh bien, Newsom utilise les mêmes procédés, à la fois pour se moquer de Trump et pour faire passer des messages. Parce qu'en fait, les gens, et surtout dans ce pays où, en gros, la plupart des Américains n'ont pas de passeport, ils ne savent pas où se trouve la Belgique, hein, je suis navré de vous le dire.
Mon office que donc, pas, j'ai l'habitude.
Plus la simplification est évidente, plus ça marche.
Mais alors, c'est comme ça qu'il faut s'adresser à lui ? Par exemple, Emmanuel Macron, il devrait s'adresser à lui comme ça ? Les Européens devraient s'adresser à lui comme ça ? Mais avec son langage ?
La plupart le font. Souvenez-vous du secrétaire général de l'OTAN, qui est un Néerlandais. Bon, personne n'est parfait. Hein. Bref. Donc,
ça, c'est l'humour flamand.
Mark Rutte, lors du dernier sommet de l'OTAN, c'était l'été dernier, lui a fait un énorme compliment, lui a vraiment ciré les pompes comme c'est pas possible, en disant en gros, vous êtes le daddy de nous tous, vous êtes le papa de nous tous. Et Trump, ravi, très très content quand on lui fait des compliments.
Et ça, c'est une technique diplomatique maintenant.
Oui, mais ça ne marche pas nécessairement.
Pour votre livre, vous avez passé au peigne fin toute sa prose, il y a des déclarations et les messages publiés sur son réseau, Truth Social, vous êtes abonné.
Bah, oui. Oui, d'ailleurs, ouais. Je suis accro maintenant.
C'est pas vrai.
Non, et en plus, ben, la nuit, parce qu'avec le décalage horaire, la nuit dernière encore, j'ai lu ce qui trouve le moyen de déclarer, après l'histoire du pétrolier sous pavillon plus ou moins russe,
ouais.
C'était très précisément dans la nuit de mercredi à jeudi, pour être précise, il a fait un très très long tweet sur son réseau, Truth Social, en disant, ben voilà, les États-Unis sont le pays le plus fort du monde et je suis le plus grand président américain qui ait jamais existé. Et la Norvège a bien eu tort de ne pas me donner le prix Nobel. Parce que la Norvège, c'est dans l'OTAN. Mais qu'est-ce qu'ils font dans l'OTAN ? Et d'ailleurs, l'OTAN, blablabla, blablabla.
Donc vous passez vos nuits avec Donald Trump, si je comprends.
Voilà, bien. C'est bah tout
oui.
À fait ça.
Oui, bah... Mais alors, écoutez, pourquoi pas ?
Oui, enfin là, c'est
même,
pour des raisons professionnelles.
Je sais.
Je crois pas avoir tout à fait les mensurations qui l'auraient intéressé à un autre moment.
Ah
oui, heureusement pour moi.
C'est vrai, mon Dieu. Dieu vous garde.
Oui.
Mais quand même, pour passer au peigne fin, littéralement, toute la prose de Trump, etc., comment va la santé mentale à un moment ? Parce que c'est quand même dur, non ?
Vous êtes gentil de vous en inquiéter. Non, c'est surtout très, très déprimant.
Oui.
Mais, encore une fois, je crois que c'est nécessaire. Parce qu'on peut faire toutes les analyses et on ne manque pas de gens extrêmement savants. Et je suis ravie d'en accueillir tous les samedis sur France Culture. Mais ce n'est pas l'analyse rationnelle qui fonctionne avec lui. Ce n'est pas ça la clé. Donald Trump ne connaît pas l'histoire. Il s'en fiche totalement. L'histoire commence avec lui et se termine avec lui. Et donc, il ne connaît même pas l'histoire américaine. C'est ce que je raconte dans l'un des chapitres, puisque c'est par ordre alphabétique, donc c'est assez simple. Le bureau ovale. Donc, d'abord, il l'a entièrement redécoré parce qu'il adore tout ce qui est doré, l'or. Il y a de l'or partout. Bon. Et il montre assez régulièrement à ses visiteurs un exemplaire de la Constitution américaine. Et il dit, ah ben c'est quand même dommage que pour en arriver là, il ait fallu 5000 morts. Le problème, c'est que la guerre civile américaine, elle est intervenue après la rédaction de la Constitution. Donc c'est quand même sidérant. Vous avez le président des États-Unis. Bah...
Et pourtant, cette année 2026 est une année importante pour les États-Unis. Il va célébrer
le 250e anniversaire. Il a déjà mis au point un certain nombre d'événements extrêmement marquants. Et le plus important, a-t-il déjà dit, ce sera un concours de MMA.
Art martial, ouais.
Voilà.
Très violent. Il organise ça pour célébrer les 250.
Oui, d'ailleurs, vous savez qu'il a fait détruire toute une aile de la Maison-Blanche pour faire en principe une immense salle de bain. Tout ça payé, évidemment, par des richissimes qui sont ses soutiens.
Ouais. Ce sera sa galerie des glaces, quoi, un peu.
Oui, mais une galerie des glaces qui servira d'abord pour ce championnat de...
De MMA ?
Ah oui.
Il ne va pas mettre de glace, alors, parce que...
Non, ce n'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on arrive à percer à jour quand on prend sa prose au pied de la lettre. Parce que c'est ça qui se passe. En plus, dans ce livre, Le Trump de A à Z, dans votre livre, on a la traduction en français de tous ses propos. Et donc, le fait qu'on le voit en français, ça, quand on maîtrise moins l'anglais comme moi, c'est encore plus frappant, je trouve.
Oui, et parfois en mauvais français. Parce que j'ai eu des reproches de lecteurs, dont un traducteur professionnel que je salue au passage, qui m'a écrit un long message, fort bien écrit d'ailleurs, en disant mais comment vous faites des fautes de franglais, par exemple lunatique, qui est un adjectif que Trump adore pour décrire des gens timbrés, selon lui. En général, les lunatiques d'extrême gauche. C'est la formule qui. Mais si j'avais mis ces fous d'extrême gauche, ça perd son sel. Parce que en anglais, c'est très approximatif aussi ce qu'il écrit. Et donc, il m'a semblé plus juste, plus approprié de garder en français aussi des approximations. Parce que c'est comme ça qu'il s'exprime. C'est pas Shakespeare.
Et traduire le Trump, c'est.
C'est un travail.
C'est quelque chose, c'est un fameux travail. Et donc, qu'est-ce qu'on approche quand on le lit littéralement, avec même ses hésitations et ses erreurs ?
On approche son caractère, son narcissisme, souvent puéril d'ailleurs, incroyable de naïveté par moments, et ce besoin de répéter sans arrêt « je suis le plus grand, je suis le meilleur ». Il a même été jusqu'à déclarer il y a quelques semaines « je suis le plus grand président que les États-Unis aient jamais compté, je suis plus grand que Lincoln, je suis plus grand que George Washington ». Alors là,
pourquoi pas ? C'est pas vrai ?
Chacun, chacun son opinion.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
On peut peut-être lire un extrait, si vous êtes d'accord, Christine Ockrent, de ce livre. Je vais prendre le chapitre Springsteen et Swift.
Oui. Taylor Swift.
Exactement. Donald Trump a longtemps utilisé la chanson de Springsteen Born in the USA. Pour rythmer ses réunions électorales, écrivez-vous.
Et sa danse, parce que vous savez que c'est un grand danseur.
Il danse formidablement
bien.
Vous
savez qu'il a reproché à Maduro, qu'il a donc coffré il y a quelques jours, d'avoir osé imiter sa danse.
Mais il a tous les culots.
Sur scène, oui. Sinon que Maduro a un sens du rythme.
Ouais, latino, bien sûr. Et le 16 mai de l'avion qu'il ramène de sa tournée diplomatique au Moyen-Orient, dites-vous, il publie Donald Trump ce message sur son réseau social, Truth Social. Je vous le soumets, j'ai mis en fluo. Parce que en fluo. Plus dans votre bouche, ça va être assez succulent. Lisez-nous du Trump, littéralement.
Alors, à propos de Bruce Springsteen, je ne l'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé sa musique, ni son engagement de gauche radicale. Et surtout, ce n'est pas un type talentueux, juste un jerk. Donc ça,
on laisse
est-ce
comme
qu'on
ça.
Peut dire ça, France Inter, un
jerk.
Con
oui, bien bon. Sûr, allez-y.
En majuscule, jerk. Arrogant et odieux. Qui a soutenu avec ferveur Joe Biden, cet imbécile mentalement incompétent, et notre pire président en majuscule, qui a failli détruire notre pays. Si je n'avais pas été élu, il aurait déjà disparu. Ce pruneau desséché de rocker, sa peau est tout atrophiée, devrait... fermer sa gueule en majuscule. Je vous rappelle qu'il s'agit du... Je suis en train de lire les propos du président des États-Unis. Je reprends. Il devrait fermer sa gueule, en majuscule, jusqu'à ce qu'il revienne dans le pays. C'est tout simplement normal. Alors, nous verrons ce qui va se passer pour lui. Donald Trump.
Et là, de vous entendre, je me dis, quand même... Christine Ockrent, aujourd'hui, quand vous citez un message du 47e président des États-Unis, waouh, c'est vertigineux, ça.
Oui, mais enfin, c'est de votre faute.
Oui, je sais, mais tout est de ma faute, vous savez, Christine. Oh, évidemment, tout est de ma faute. Christine Ockrent, vous avez travaillé 10 ans pour la télévision américaine au début de votre carrière. Qu'est-ce qui vous avait attiré vers les États-Unis ?
L'Amérique. Je crois que moi, j'appartiens à une génération pour qui le rêve américain, qui perdure, Mais à l'époque, oui, forcément, c'était encore l'image, en tout cas, de ce Kennedy assassiné. Et puis c'était, s'agissant de l'information en particulier, à l'époque, en France, l'information, c'était l'ORTF verrouillé comme... de façon assez sévère. Et donc là, oui, j'ai eu cette chance de travailler dans une autre culture, dans une autre langue et dans un autre système mental et d'autres rapports de force avec, avec les politiques, en fait, avec le système politique, ah, oui. Donc on prend de mauvaises habitudes.
Oui. Et aujourd'hui, ce rêve américain, il persiste quand même en vous, malgré Trump.
C'est-à-dire que déjà avec Trump 1, j'avais trouvé ça plus difficile. Avec Trump 2, ça devient...
Ouais. Il a cassé votre rêve.
Non. Enfin, et puis, c'est un pays auquel je suis attachée. J'y ai beaucoup d'amis. Puis de grands souvenirs. De grands souvenirs de reportages, notamment avec Cartier-Bresson, avec qui on a fait 2 documentaires pour CBS, parce que mes patrons étaient persuadés qu'un photographe de génie serait forcément un réalisateur de génie, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Mais voilà, c'était merveilleux. Et puis avec des moyens qu'on n'imagine plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, on a passé 2 mois en Californie, on en a fait un autre dans le Mississippi. Enfin, ce sont des trucs auxquels on ne peut plus véritablement prétendre aujourd'hui.
Mmh. On va y venir à ces grands événements que vous avez couverts aussi. Mais au début, vous obtenez une bourse pour intégrer à Harvard l'école d'administration publique. Et vous y renoncez pour un stage de 3 semaines au bureau parisien de NBC.
Oui, c'est-à-dire que je fais ce stage au bureau parisien de NBC, ce qui me donne l'occasion... Il y avait encore le rideau de fer, c'était au siècle dernier.
Mais comment vous faites ce choix? Vous renoncez à une bourse à Harvard?
Parce que j'ai trouvé, de façon purement instinctive, totalement irrationnelle, que c'était beaucoup plus rigolo. Enfin, que c'était beaucoup plus passionnant d'être sur le terrain, de plutôt que d'analyser le rideau de fer, même dans cette université extrêmement prestigieuse. Donc un choix complètement irrationnel. Et je remercie encore mes parents d'avoir accepté ce qui était quand même pour eux totalement incompréhensible.
Ah, vous avez souvenir de ce moment quand vous leur annoncez?
Oui, de leur regard à l'un et à l'autre interloqué. Mais voilà, ils ont été respectueux de ma décision. J'ai retrouvé d'ailleurs, en rangeant des vieux papiers, ce qu'il ne faut jamais faire.
Signale.
Non, parce que c'est... Bref. J'ai retrouvé le billet de bateau que j'avais reçu sur je ne sais plus si c'était le Queen Elizabeth. Voilà.
Ah, vous aviez le billet?
Oui.
Vous aviez tout? La valise était prête, le billet, tout
non,
ça?
Non, la valise n'était pas prête. Enfin, voilà, oh c'était là. Il y a longtemps.
Mais oui. Vous ne pouvez pas les changer. C'est trop tard.
Je voudrais bien recommencer, mais je crois que je recommencerai la même chose.
Mais pourquoi vous dites qu'il ne faut pas rechercher ces vieux papiers? Vous avez retrouvé ce trésor quand même.
Oui, mais enfin voilà, je trouve qu'il vaut mieux aller de l'avant dans la vie.
Oui, je comprends. En introduction de votre livre, Le Trump de A à Z, vous rappelez que Donald Trump a été réélu en dépit de 2 procédures de destitution inabouties, 1 condamnation au pénal, 2 poursuites au fédéral et plusieurs procès pour fraude fiscale. Donc, finalement, est-ce qu'il n'a pas une doctrine qui s'appellerait B comme Balek?
Sans
Balestek.
Oui, enfin, ça, c'est un mot que je découvre.
Je vous l'apprends pas. Si vous parlez avec Donald Trump, ça peut aider Balestek, je vous le conseille.
Ah, Balek, Balestek.
Balekouille, comment? Alors, Balek, c'est un mot d'argot qu'utilise beaucoup la jeunesse. B-A-L-E-K.
Oui.
Voilà.
Ah,
et en fait, c'est la contraction de Balekouille.
Balek. Couille avec un K.
Balek, oui, enfin, vous savez, vous voyez.
On va pas chipoter. Non. Bon, d'accord.
Sur trousse sociale, vous pouvez lui répondre. Vous pouvez lui répondre Balek.
Très bien. Je sais pas comment. Oui, enfin, oui.
Ça lui correspond assez bien, vous trouvez, non?
Le problème, c'est que c'est. Comment dire? C'est toujours tentant, effectivement, de ricaner. Le drame, c'est qu'il faut le prendre au sérieux aussi. Et il y a toujours ce moment où on se dit, c'est pas possible, il peut quand même pas dire qu'il veut le Groenland ou qu'il veut le Canada.
Mais ma question était sérieuse, Christine O'Krent.
Mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement sérieux. Il faut toujours se méfier des gens drôles.
C'est-à-dire que il s'est assis sur toutes ces décisions de justice et toutes les menaces judiciaires et la loi. Donc, finalement, est-ce que c'est pas comme ça qu'il fonctionne ? Balek.
Ce n'est pas tant lui qui... Enfin, lui s'est assis dessus, il a payé des avocats, il a perdu des procès, il en a évité d'autres. Ce sont les Américains qui se sont assis là-dessus. Il a été élu. Et il a été élu, vous savez, dans ce système très complexe. Il a même obtenu le vote populaire, de façon indéniable. Pas avec le pourcentage, il prétend, j'ai eu une masse... Non, il a eu, de mémoire, 1,5% de voix de plus que... la candidate démocrate.
Kamala Harris.
Mais dans leur système, ce qui compte, ce sont les grands électeurs, puisque c'est un système à deux branches, en quelque sorte. Donc, il a eu les grands électeurs, c'est-à-dire la presque totalité des États américains, mais il a eu aussi le vote populaire. Ce qui veut dire qu'une majorité d'Américains, en tout cas une majorité d'électeurs, ceux qui se sont dérangés, soit pour voter par correspondance, soit pour aller voter, ont estimé qu'en fait... ce qui comptait, c'était que cet homme riche, c'est très important dans la mentalité, ce milliardaire, il a fait beaucoup d'argent, c'est pas tout à fait vrai, il a frôlé la banqueroute plusieurs fois, mais enfin bref, ce milliardaire à qui tout réussit, ben, ce sera bon pour nous. Donc, ceux qui se sont assis sur cette montagne de procès, ce sont bien les Américains eux-mêmes.
C'est eux qui disent Balek. D'accord. Le vice-président J.D. Vance, qui a l'air bien parti en campagne pour essayer de succéder à Trump, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Vous écrivez dans votre livre, il fait office de passerelle entre les nationalistes chrétiens très présents à la Maison-Blanche et les techno-césaristes menés par Elon Musk. La dimension religieuse évangélique, il y a un chapitre religion dans votre livre, elle est capitale, non ?
Elle est capitale depuis toujours aux États-Unis.
Oui, bien sûr.
Nous, on a
toujours,
du mal à
oui, il y a toujours eu ça chez les présidents américains, etc. Mais là, est-ce que ce n'est pas encore plus fou ? Vous expliquez qu'il y a un bureau de la foi avec des conseillers religieux. D'ailleurs, c'est le seul chapitre où il n'y a pas de gros mots. Hein. La religion.
Non, et il a en particulier une femme pasteur évangélique. Et donc, cette femme pasteur conseille, entre guillemets, Trump depuis plusieurs années. Elle-même a fait fortune, parce que tout ça est cimenté par beaucoup d'argent. Elle a fait fortune grâce aux radios qui sont très puissantes dans l'immense espace américain. Les gens qui passent des heures en voiture.
On peut faire fortune à la radio ?
Oui, pas chez nous. Hein.
Ah bah non.
Enfin, pas dans le service public, non, en tout cas.
Vrai.
Bon. Et donc, cette femme a posté, comme on dit dans ce jargon, il y a quelques jours, une nouvelle vidéo... Donc, c'est une blonde, pas mal, enfin, c'est... Voilà. Et elle dit, qui dit non à Trump, dit non à Dieu. Donc, on a affaire, encore une fois, à une dimension qui, fort heureusement pour nous, à mon avis, n'existe pas en Europe, mais qui est dans une tradition américaine. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis ont été fondés par, en fait, des sectes religieuses qui, au milieu du XVIIIe siècle, fuyaient le contrôle et l'oppression du royaume britannique et néerlandais et autres. Enfin,
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis au bistrot avec Christine Ockrent, qui publie « Le Trump de A à Z », un premier dictionnaire chez De Noël. Apprenez à parler le Trump littéralement, maîtrisez sa langue pour mieux le comprendre et essayez de quoi ?
De survivre.
De survivre, oui. Tout simplement. Christine Ockrent, ma chère compatriote, devrais-je dire, toujours pas naturalisée française, donc.
Non, on m'a fait l'honneur de me le proposer plusieurs fois. Mais...
Ouais. Ça vous a jamais paru utile ?
C'est pas une question d'utilité, c'est une question de sentiment.
Mm-hmm. Ouais, ouais. Vous avez peur de rater l'examen, c'est tout.
Ça doit être ça.
Moi, c'est ça.
La maîtrise de la langue, la maîtrise de l'histoire.
C'est clairement ça. Et vous savez que beaucoup de Français veulent devenir Belges, hein, dans la perspective de 2027.
Mais c'est-à-dire qu'il y en a déjà qui s'y sont installés pour fuir les impôts.
Mmh. Ouais.
Mmh. Y en a pas mal. Hein.
Vous avez passé votre enfance à Bruxelles.
Jusqu'à l'âge de 10 ans.
Ah oh, oui, quand même.
Oui,
c'est l'enfance.
Oui,
ouais. Vous avez des souvenirs de cette époque ?
Mais tout à fait.
Quel beau souvenir de Bruxelles.
Le lycée Carter.
Ouais.
Absolument. D'ailleurs, un animateur de télévision belge, il y a quelques années, qui faisait une émission justement sur les parcours d'enfance, m'avait organisé un petit parcours à Bruxelles et une réunion avec mes copines de l'école primaire.
Oui, il vous en reste quelque chose de cette enfance bruxelloise ou cette...
Ah oui, oui, le goût du chocolat, des cuberdons, du filet d'Anvers.
C'est cliché, ça.
Mais non, c'est vrai. Mais c'est vrai.
C'est votre Madeleine de Proust.
Oui, mais j'en ai plusieurs.
Ah oui, j'imagine. Oui. Votre papa, diplomate, a été directeur de cabinet. On ne dit pas ça en Belgique généralement d'un grand homme, mais c'était un grand homme, Paul Henri Spaak. Qui a
tout de suite après la guerre.
Oui, ouais, donc qui est un des constructeurs de l'Europe, Paul Henri Spaak, qui s'est occupé du plan Marshall pour la Belgique. Donc, vous baignez dans ce milieu-là. C'est-à-dire que quand vos camarades de l'école lisaient le journal de Mickey, vous connaissiez déjà tous les enjeux internationaux.
Enfin, c'est beaucoup dit. Mais oui, enfin, j'ai eu cette chance, oui, absolument. Et c'est sûrement la raison atavique pour laquelle je suis une Européenne convaincue. Mmh.
L'attachement à l'Europe et les préoccupations internationales.
Tout à fait.
Quand vous vous installez à Paris, c'est parce que votre père s'installe à Paris ? Comment vous arrivez à Paris déjà ?
Oui, parce que comme il s'était occupé du plan Marshall, il a représenté la Belgique dans cette institution qui s'appelle maintenant l'OCDE.
Mmh. Donc vous faites Sciences Po, vous sortez major de promo. Je refais un petit peu votre parcours.
C'est bien utile.
Mais je sais que ça vous enquiquine.
Ah, ça m'enquiquine.
Ah oui, vous dites toujours ça m'enquiquine.
Ben oui.
Mais pourquoi ?
Mais parce que je le connais.
Oui, ben les auditeurs.
Non, mais ça ne les intéresse pas nécessairement.
Bah, c'est important de savoir que quand même, vous sortez de Sciences Po après, vous passez 2 ans au bureau de Londres de NBC, 7 ans au siège de CBS News donc aux États-Unis dans les années de 67 à 77. Vous rentrez en France, donc là vous passez de CBS à France 3.
D'ailleurs, pourquoi un petit choc culturel.
Ah oui, j'imagine bien CBS France 3. Pourquoi vous quittez les États-Unis alors ?
À la mort de mon père, donc voilà, c'est des raisons familiales.
Ah, c'est des raisons familiales. C'était quoi le plus gros handicap ? Je continue à vous enquiquiner, Christine O'Krent. Hein.
C'est bientôt fini.
Oui, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Vous voulez qu'on boive un coup ?
Non, là, je
savais.
Ah non, non.
Une petite poire avec des caouettes, une suze, un truc, pour que ça passe plus vite.
Non, là, je suis dans une phase d'abstinence.
Ah, d'accord. Dry January.
Absolument.
Oh, vous le pratiquez ?
Non, mais c'est juste que, voilà, il y a un moment où
il faut être en forme. D'accord.
Exact.
Votre plus grand handicap, quand vous étiez à l'époque journaliste, on va dire vedette, prenons le 20h par exemple, et vous avez aussi patronne de médias, notamment l'Express, numéro 2 à TF1, l'audiovisuel extérieur de la France, c'était quoi ? C'était d'être belge ou d'être une femme ?
Ben, les deux combinés, comme vous savez, c'est lourd à porter. Hein. Mm-hmm. Non, je crois que... comment dire ? Même dans nos métiers, l'autorité d'une femme est toujours... plus difficile à installer et sûrement plus difficile à supporter par les autres que l'autorité d'un homme. Et c'est vrai des hommes, évidemment, mais aussi des femmes. Il ne faut pas croire que la sororité, comme on dit, ça fonctionne à tous les coups. Mais voilà, je suis quand même assez contente de constater que le nombre de femmes dans nos métiers a considérablement augmenté.
Qui étaient vos rôles modèles ? Vous aviez des modèles féminins ?
Oui, y avait évidemment Françoise Giroud, que j'ai eu la chance de connaître, avec qui je n'avais jamais travaillé, mais que j'ai eu la chance de connaître. Et quand j'ai été nommée à la tête de l'Express, elle m'a invitée à déjeuner, elle m'a dit, avec cette voix, m'a dit, ma petite Christine, l'Express, c'est la Schkoumoun. Donc, voilà, c'était,
ah bon.
C'était assez saisissant.
Vous y êtes allé quand même.
Oui, enfin, il n'avait pas tort, d'une certaine manière. Mais enfin, je souhaite le meilleur à mon ami Eric Scholl, qui dirige l'Express maintenant et qui lance d'ailleurs une nouvelle formule. Et puis, il y a une journaliste italienne que j'ai très bien connue et beaucoup admirée, qui s'appelait Oriana Fallaci, qui était assez mal connue en France, mais qui a été, à l'époque où la presse écrite était reine... Une grande journaliste. Vraiment une grande journaliste.
Qu'est-ce que vous appelez une grande journaliste ?
C'est-à-dire quelqu'un qui a à la fois une intelligence des gens, une intelligence des situations, une culture et un talent d'écriture. Donc tout ça combiné, c'est assez rare. et la Falaci, qui était une légende en Italie et aux États-Unis, parce qu'elle écrivait beaucoup pour Life, qui était un grand magazine, admirable d'ailleurs, américain de l'époque, et dont j'avais fait le portrait pour CBS, c'est ainsi que je l'ai connue. Elle avait ces talents-là. À part ça, c'était une emmerdeuse de première, mais ça fait aussi partie, ça fait partie du personnage. Alors, en plus, c'est une Florentine, c'était une sorcière Florentine. Donc elle,
on dit des femmes talentueuses qu'elles sont enquiquinantes, hein.
Oui,
souvent.
Bah forcément.
C'est un peu sexiste. Ouais.
Oui, mais enfin, ça fait partie de... Et donc, quand elle était à Florence, il se trouve que la deuxième chaîne française, à l'époque, était captée à Florence. Donc, après le 20h, j'étais sûre, le téléphone sonnait, il n'y avait pas encore de portable. Hein. Donc, c'était le téléphone dans mon petit bureau à Antenne 2 qui sonnait. Je savais que c'était elle. Et alors, elle m'injuriait, évidemment. Oui, parce que sa théorie, c'est qu'il fallait être en colère. Elle avait une théorie de la colère comme étant le nerf de la guerre du journalisme. Donc il fallait tout le temps être en colère, ne jamais être d'accord avec personne, et en particulier quand on interviewait évidemment les politiques. Et donc elle m'appelait, elle disait Cristina, non, non, l'ha fatto bene, te l'ha detto. Mais enfin, ça m'a aidé à apprendre un peu d'italien.
Oui, en effet. Il y a un beau vocabulaire, très certainement.
Oui.
Et en 68, vous êtes documentaliste.
Ben, je commence à NBC. Oui.
Mais 68, donc vous vivez l'événement d'un point de vue particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faisiez? Parce que vous évoquiez tout à l'heure le téléphone qui n'était pas sans fil. Je porte des pellicules à Orly et je dédouane.
Ben oui, on tournait en film.
Oui. Il fallait envoyer tout ça aux États-Unis.
Non, il fallait envoyer ça, en l'occurrence, quand on filmait ailleurs qu'à Paris. C'était le bureau parisien de NBC. Donc, on tournait partout en Europe, ou même parfois aux États-Unis. Donc, la pellicule revenait dans des grands sacs jaunes, en tram plastique, et il fallait les porter au laboratoire Éclair à Boulogne. Qui s'y collait? Ma pomme. Donc, il fallait d'abord aller à Orly. Les dédouaneux, tout ça prenait une journée. Et donc, mon pauvre père, quand je rentrais, me disait, mais qu'est-ce que tu as fait d'intéressant aujourd'hui? J'étais à Orly. Mais voilà, mais ouais. Ça fait partie.
Et là, il se dit, quand je pense qu'elle pouvait aller à Harvard.
Non, mais justement, il avait l'élégance de ne pas le dire.
Il était diplomate, hein, je rappelle. Et la chute du mur de Berlin, vous l'avez couverte en direct?
Ah oui, bah oui.
Oui. Ah oui,
absolument. On avait affrété un avion dans la nuit, on était arrivés, on s'était installés au meilleur endroit, on était avec De Villers.
C'était qui?
L'oncle de votre camarade de France
Mais
Inter.
Non, Sonia De Villers.
Donc, à l'époque, il y avait diffusé par satellite, n'était pas courant. Il y avait assez peu de satellites. Mais on avait embarqué tout ce matériel à l'époque. Aujourd'hui, on fait ça avec son téléphone portable. À l'époque, je vous rappelle que c'était en 1989, donc on débarque à Berlin, il faisait très froid, avec des caisses de matériel, etc. On s'installe au meilleur endroit, on met tout en place. À 20h moins 1, je vois le chancelier Kohl, le chancelier de l'époque, qui passe à côté de moi. Malheureusement, je ne parle pas allemand, mais je lui pose quand même une question. Il a les yeux embués de larmes. C'était quand même très, très... étonnant, hein, ce moment. Donc, il me répond. Et je lance le 20h. Et au bout de quelques minutes, je vois De Villers qui nous fait des grands signes avec ses bras, parce que rien ne passait à l'antenne. Pourquoi? Parce que les calculs pour taper le satellite avaient été faussés par les moellons en fer qui tenaient les pierres du mur. Donc, panique à Paris, parce qu'il fallait quand même qu'ils improvisent quelque chose. Et puis, au bout de 10 minutes, on a pu, etc., etc. Je crois que je n'ai jamais autant bu, j'étais pas toute seule, de ma vie qu'après...
Oh, wow.
Non, c'était... Mais ça reste, évidemment, un moment très particulier.
Ouais. Vous voyez que c'est intéressant de vous enquiquiner. On devrait vous enquiquiner plus souvent.
Mais oui, ça, c'est pas sûr.
C'est passionnant. Je voudrais vous parler du service public, tiens. Parce que je me suis rappelé, vous avez bien sûr dirigé à un moment l'audiovisuel extérieur de la France, et RFI, France 24, TV5, vous êtes un peu chargé de mutualiser les moyens à l'époque. Et c'est vrai que Bernard Kouchner était ministre des Affaires étrangères.
C'est exact.
Et vous dirigez l'audiovisuel extérieur de la France.
C'est exact.
Bah oui, c'est... Bon, vous êtes détente, vous, en fait.
Non, c'est pas ça, mais moi, j'ai considéré, mais je crois que j'ai eu tort, qu'en fait, j'avais une légitimité professionnelle qui ne devait absolument rien aux fonctions, d'ailleurs, très provisoires, par définition, de Bernard. Donc, voilà. Mais je reconnais que, facialement, bon, c'était pas une bonne idée.
Ça arriverait plus à aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui présenterait le 20h et qui partagerait la vie d'un politique, ça, c'est... On pourrait plus penser.
Non, mais
pas. C'était une autre époque, quoi, non ?
On peut dire ça, mais dans mon cas, je présentais déjà le 20h quand j'ai rencontré Bernard, lequel était médecin, fondateur de Médecins Sans Frontières et de Médecins du Monde, qui n'était ministre en rien du tout. Donc, toute cette histoire... qui est développé dans tous les journaux, ça n'en finit pas, gna 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 gna. Et alors toutes ces filles de télé qui sont avec des politiques. Moi, je ne me sens pas concernée, je suis absolument désolée, parce que ce n'est pas du tout mon histoire. Je veux dire, ce n'est pas la chronologie, ce ne sont pas les faits. Moi, moi j'avais commencé tout mon parcours professionnel, absolument à un moment où...
Est-ce que la jeune Christine Ockrent, qui a 20 ans, elle se lancerait aujourd'hui dans le journalisme ?
Absolument.
Ah. Et
ah
vive
oui.
La, et,
ouais.
Et vive la radio ?
Vive les médias.
Merci Christine Ockrent.
Merci
fini.
Charlotte.
Vous êtes soulagée, c'est fini ?
Bah non, parce qu'une fois qu'on commence...
On peut plus s'arrêter.
Bah voilà.
Ah, je suis d'accord avec vous. Je rappelle que vous publiez Le Trump de A à Z, un premier dictionnaire paru chez De Noël. Et si vous êtes à Paris, sachez qu'on peut vous retrouver conférencière au théâtre Montparnasse les 3 prochains lundis ici, conférence sur Donald Trump à 19h. Non seulement elle passe ses nuits avec, mais ses soirées aussi. Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin à la réalisation, Michael Simon à la prise de son, Ludovic Asselot au mixage et merci au service documentation de Radio France. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20 avec Reda Kateb.